faut dire aussi, c'est que le véhicule électrique, c'est pas la solution à tous les maux, là.
Hein?
Non, mais c'était tout pour aujourd'hui, mais c'est mort.
Bonjour, je m'appelle Francis Labbé, je suis porte-parole d'Hydro-Québec. J'ai le bonheur d'animer cette série balado qui s'appelle « Votre tweet est important pour nous ». Et autour de la table, il y a les gens qui m'accompagnent, qui répondent aux questions que l'on se fait souvent poser sur nos plateformes de médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Jonathan Côté.
Bonjour Francis.
Bonjour. Pierre-Alexandre Buisson.
Salut bien.
Et Gabriel Leblanc.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler électrification des transports ou char électrique pour celles et ceux qui préfèrent l'expression. Madame Leblanc, je commencerai par vous. Une expérience particulière avec la voiture électrique.
Particulière, c'est peu dire. Alors moi, peu de gens se rappellent la dernière fois qu'ils ont fait un tour de véhicule électrique. Moi, pourtant, c'est très frais dans ma mémoire parce qu'on a frôlé la mort. Puis c'est pas à cause des voitures électriques. Hein. C'est peut-être à cause de notre conducteur, mais peut-être que non plus. Jonathan, je vais partager avec tout le monde ce qui nous est arrivé.
C'est correct, tu peux en parler, Gab.
Alors, la dernière fois que j'ai été dans un véhicule électrique, c'était avec mon cher collègue, après un long tournage, qui était quand même riche en péripéties. Hein. On était déjà fatigués, on était brûlés, on embarque dans la voiture pour rentrer chez nous. Là, on roule, tout se passe bien. À un moment donné, il y a comme une secousse dans la voiture. On est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, on voit pas le problème. On se retourne vers le devant de la voiture. La roue nous dépasse sur l'autoroute. On avait perdu un gros morceau de pneu. Là, Jonathan, avec ses aptitudes de bon conducteur, s'est arrêté dans l'accotement. On a regardé le pneu continuer à nous dépasser. Puis on s'est dit, hi, que ça va mal. Puis là, on attendait, on savait pas trop quoi faire. On est sorti, on a regardé. Il nous manquait un morceau de pneu, on pouvait rien faire. On s'est dit, OK, ben on va appeler la remorqueuse. Là, Jonathan a eu tout le mal du monde à appeler son assistance routière. On a appelé finalement les policiers qui sont venus nous ramasser sur le bord de l'autoroute. Parce qu'en fait, c'était à une époque où, avec la COVID, hein, les remorqueuses pouvaient rapporter personne. Donc, la remorqueuse pouvait venir chercher la voiture, mais pas nous chercher nous.
Oh, nice.
On était coincés sur le bord de l'autoroute, un petit peu désemparés. Il faisait au moins genre 35 degrés, il faisait chaud, on était brûlés. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas marcher sur l'autoroute pour retourner au village où on est en ce moment. Fait que là, finalement, le gentil policier de la SQ a décidé de nous embarquer avec lui. Puis là, je me suis dit, en tant que bonne gestionnaire de réseaux sociaux, c'est le moment parfait pour un photoshoot dans une voiture de police.
Et voilà. Là, tu t'es pas demandé si on pouvait utiliser les menottes pour faire des photos?
J'ai peut-être demandé s'il pouvait nous menotter juste pour le bien de la photo. Ce à quoi il a dit, c'est sûr que non. Fait que on a des photos de nous, quand même, dans la voiture de police, sans menottes.
Heureusement, pour la plupart des gens, l'utilisation d'une voiture électrique, ça se passe pas comme ça. Pierre-Alexandre, il y a des commentaires souvent qui nous sont envoyés là-dessus, en général.
On peut définitivement dire que l'électrification des transports, c'est une grosse préoccupation pour les Québécois parce qu'on nous en parle chaque jour sur les médias sociaux. Je pense que notre invité va pouvoir répondre à plusieurs de ces questions-là.
Merci, Pierre-Alexandre. Justement, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons la directrice mobilité d'Hydro-Québec, Mme France Lampron. Bonjour, France.
Non, c'est la directrice. Je pensais que tu avais un autre surnom pour
elle. Je pensais que c'était Reine
la
des Bornes.
La Reine des Bornes. Pas la Reine des Neiges, la Reine des Bornes. C'est encore mieux.
France, c'est une année particulière. Il y a le 10e anniversaire du circuit électrique cette année. Là.
Oui, en fait, je ne peux pas croire, là, mais ça fait vraiment 10 ans qu'on installe des bornes. Donc, ça a tellement changé en 10 ans. Quand on a commencé, on avait 32 bornes. Quand on a lancé le circuit électrique, on avait 32 bornes dans deux villes. Et puis là, on est rendu à 3700, je pense. Le chiffre change à tous les jours.
Puis il y a 32 bornes avec pratiquement une borne par véhicule électrique au Québec, je pense, à ça.
Pas loin. Ouais.
Et pourquoi c'est Hydro-Québec qui a lancé le premier réseau de bornes?
C'est une bonne question, en fait. C'est que à l'époque, le PDG voyait vraiment l'électrification des transports comme une opportunité de revenus supplémentaires pour Hydro-Québec. Et on savait aussi que c'était un moyen de décarbonation là, incroyable. Donc, il y avait toute la question de la poule ou l'œuf. Alors, on a décidé qu'on était, je ne sais pas si c'était la poule ou l'œuf, mais on était un des deux.
On est la poule.
On est la poule. Donc, on a décidé de se lancer. Et puis, ça a commencé, comme je disais, tout petit, puis ça a pris une ampleur qu'on soupçonnait clairement pas, là, en 2012.
Mais il y a 10 ans, vous étiez visionnaire, là. C'était pas encore... c'était pas commun tant que ça, là, les voitures électriques.
Bien, je te dirais plutôt qu'on était comme une gang d'hurlu-berlu, là, un peu flyés, là. Puis le monde nous regardait en disant... Le véhicule électrique, oui.
Mais en tout cas, tu vas voir, on a beaucoup de commentaires, de questions, puis je dirais que le reste de notre échange va être beaucoup basé autour de ce que les gens nous disent à tous les jours, parce que Dieu sait que les gens ont beaucoup de choses à dire. Puis ce que je constate qui est quand même drôle, c'est que les questions les plus bizarres, ou du moins celles qui sont les plus dures peut-être des fois par rapport aux véhicules électriques, proviennent de ceux qui n'ont pas de véhicule électrique. Donc ceux qui en ont un souvent vont vraiment comme bien comprendre tout le fonctionnement, puis comprendre l'approche du circuit électrique. Mais ceux qui en ont pas, puis ceux qui ont des véhicules à essence, on dirait qu'ils ont comme peur des véhicules électriques, tu sais, que ça va comme tout chambouler leurs habitudes. Et c'est souvent ces questions-là qu'on reçoit, auxquelles on doit répondre sans cesse. Donc, c'est toi qui vas y répondre pour nous aujourd'hui.
Oui, okay. Nous, on prend une pause aujourd'hui. Là, on te laisse répondre à tout le monde.
Le France show.
Oui, bien, c'est clair que le véhicule électrique, c'est un changement de paradigme complet. Hein? Parce que les gens qui en ont un le savent complètement, mais ceux qui ne le savent pas sont habitués d'aller approvisionner leur véhicule à l'extérieur du domicile. Alors que là, 95 % de la recharge se fait à la maison. Fait que déjà, en partant, quand on comprend ce principe-là, ça enlève beaucoup de questions.
Je pense que les gens ont peut-être une crainte aussi là, par rapport au fait qu'on a de la difficulté à avoir des bornes à la maison quand on est en ville. Là. Je pense qu'on reçoit beaucoup de commentaires
ouais,
là-dessus.
Absolument. Ouais. On a eu... en fait, je vais te lire deux commentaires qui se recoupent quand même. Le premier vient de Claudette qui dit « Quand tu es locataire, tu te la plugues dans le... » C'est trois petits points, je suppose.
OK.
Puis on a aussi un Simon qui nous dit « Les gens en appart et condo sont laissés pour compte. Peu de subventions, mais beaucoup de consommateurs potentiels. » Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
C'est un réel problème. On les appelle les orphelins de garage ou les orphelins de recharge. Là, les gens qui ont pas...
Les gens dans Rosemont, là, par exemple.
Les gens qui n'ont pas d'entrée, c'est un vrai problème.
Ouais.
Fait que, justement, on est en train de faire un projet pilote pour essayer de développer un modèle d'affaires pour ces gens-là. Donc, on peut penser probablement à des hubs de recharge où il y aurait plusieurs bornes, à un nouveau tarif qui serait adapté à cette réalité-là. Donc, cette année, on va lancer ce pilote-là. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait du sens pour ces gens-là. Puis, à partir de là, ben, on va être en mesure d'offrir un service là, adapté pour ces consommateurs.
Puis, pour l'instant, est-ce que, selon toi, la quantité de bornes de rue dans les milieux urbains est suffisante à la demande?
Non. Non, clairement pas. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers acheteurs de véhicules électriques, ça a été surtout les gens qui avaient accès à une entrée. Qui pouvaient facilement s'installer une borne. Ça a été les premiers. Là, c'est pour ça qu'on est rendu à la deuxième strate. Il faut absolument là, accélérer ce déploiement-là, puis on en est très, très conscient. Malheureusement, il n'y a comme pas de solution toute faite. T'sais, on ne peut pas dire on va importer ce qui existe en Europe ou aux États-Unis. Ça n'existe pas. Donc, il faut la fabriquer.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, tu dis, OK, il faut qu'on accélère le déploiement, notamment en ville comme à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Bien, le pilote va être... En fait, l'enjeu, c'est de comprendre vraiment les besoins de ces gens-là. Parce que le comportement de recharge a beaucoup changé avec les différentes générations de véhicules. Avant, quand on avait un véhicule de 120 km d'autonomie, bien, c'est sûr qu'on se rechargeait à chaque jour. Maintenant, si tu as 400 à 500 km d'autonomie, puis que ton trajet est de 10 ou 12 km par jour, ben, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne bien le besoin pour être en mesure de déployer une solution qui y répond. C'est peut-être pas nécessairement une borne, un véhicule. C'est peut-être des bornes plus rapides où est-ce que les gens viennent régulièrement. C'est peut-être des bornes partagées. On le sait pas encore exactement.
Il y a tout un côté d'éducation aussi, parce que les gens, souvent ceux qui n'ont pas de véhicule électrique, ont l'impression qu'ils doivent être tout le temps branchés. Ils ont peut-être une vision aussi de ce que c'était les véhicules électriques quand ça a commencé, où il y avait une très faible autonomie. Aujourd'hui, tu vas brancher ton véhicule à tous les quelques jours. Tu n'as pas besoin de te brancher tout le temps non plus. Là.
C'est une crainte qui revient souvent aussi. Par exemple, quand les gens nous parlent de panne, les gens ont peur d'être pognée à la maison. Les gens sont comme, OK, on a une panne qui dure quelques heures, ben je pourrais pas partir travailler, par exemple. Ouais. Fait que oui, je pense qu'à ce niveau-là,
il y a justement, on a Pierre qui nous disait sur Facebook, c'était lorsqu'on a eu une panne quand même, une panne d'importance là, récemment, il dit, je commence à avoir hâte de recharger ma voiture, impossible d'aller travailler.
Là, après, moi, je voulais pas aller travailler.
Ben là, pour être tout à fait honnête, je suis allé espionner un petit peu sa page Facebook. J'ai constaté qu'il publiait beaucoup de mèmes et de choses contre les véhicules électriques et contre la hausse du prix de l'essence. Fait que je lui ai répondu tout simplement, vous êtes le premier propriétaire de véhicules électriques que nous rencontrons qui se plaint du prix de l'essence et partage des publications anti-véhicules électriques sur sa page. Que je l'avais un peu démasqué, mais quand même, son commentaire rejoint une crainte que certains ont, oui. De dire qu'est-ce qu'on va faire si on est en panne?
Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que, premièrement, quand il y a une panne d'électricité, les pompes à essence ne fonctionnent pas non plus. Hein? Juste comme ça, là. ce qui est intéressant avec les bornes de recharge, c'est qu'avec une application, vous pouvez voir celles qui sont alimentées puis celles qui ne le sont pas. Fait que souvent, les pannes, bon, il y a des exceptions, bien entendu, mais souvent, les pannes sont très circonscrites. Alors, à l'extérieur de ça, il y a des bornes où les gens peuvent se recharger. Et puis, fait que ça, c'est une chose. Donc, ils peuvent vraiment savoir où ils peuvent aller. Ils ne sont pas obligés de faire
avant
la tournée.
Avant de se déplacer, ils savent s'il va y avoir de l'électricité ou pas.
Mais peut-être qu'il faut remettre les choses en contexte aussi. La majorité des gens, en moyenne, roulent 45 km par jour. En moyenne. 45 km par jour, c'est 2 heures de recharge. Pas la nuit, là. 2 heures. Mmh. Donc, il y a moyen, ceci étant, si on en a besoin pour le lendemain, il y a moyen de trouver un 2 heures hors panne ou hors région de panne pour se recharger. Donc, c'est pas aussi... noir et blanc, là, que les gens peuvent nous le laisser croire.
Mais je pense que ça revient un peu à ce que tu disais, hein, c'est que quand tu n'as pas de véhicule électrique, tu n'as jamais eu à faire ces démarches-là. Fait que ça a l'air très, très intimidant. Mm-hmm. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as mentionné. Moi, j'habite dans Rosemont, je n'ai pas de stationnement. J'ai acheté ma première voiture l'année passée, je suis toujours en vélo. Fait que je suis un peu dans cette situation-là de orpheline de stationnement, orpheline d'entrée. J'ai l'impression que ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas nécessairement conscience que les bornes n'appartiennent pas au circuit électrique. Hein. Les bornes privées, c'est les gens qui font la demande. Les bornes que nous, on a dans le réseau, bien, c'est des partenaires qui ont des terrains où on peut se déployer et tout. Fait que je pense que c'est comme ça aussi à démystifier au niveau de l'information à donner aux gens. C'est pas nous qui décident d'aller mettre des bornes partout, là, finalement.
C'est un bon point. En fait, on a 2 modèles d'affaires. Il y a les modèles d'affaires pour les bornes standards, là, qu'on voit dans la rue. Et il y a le modèle d'affaires pour les bornes rapides, qui est autre chose. Fait que si on commence par les bornes standards qu'on utilise là, pour se recharger à tous les jours, effectivement, c'est nos partenaires qui les achètent puis qui les installent. Un partenaire, c'est quelqu'un qui nous prête un terrain. Ça peut être la Ville de Montréal, ça peut être un métro, ou peu importe, là, un partenaire qui décide de l'acheter puis de l'installer. Puis le circuit électrique, ce qu'il fait, c'est qu'il gère ces bornes-là. Donc, toutes les transactions monétaires, l'application mobile, la surveillance du réseau, etc. Donc, nous, on gère le réseau, mais les actifs ne nous appartiennent pas. C'est un excellent point. Sauf les rapides.
Okay.
Les rapides sont à nous. Ça, c'est un investissement qui est fait avec la base tarifaire et Hydro-Québec est propriétaire des bornes rapides.
Mais là, tu dis les bornes, mettons, je recule en arrière, les bornes standards, les bornes rapides... On peut-tu faire juste un petit démêler ça un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissait pas nécessairement ça? Puis une question qui nous revient des fois, c'est pourquoi installer des bornes lentes si on peut avoir des bornes rapides?
Des bornes lentes, arrêter de mettre des lentes.
Ben non, mais c'est ça. C'est un peu ça que les gens disent aussi des fois. Si on n'en veut plus des bornes lentes, mettez rien que des rapides. On est pressé.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. En fait, la recharge lente, c'est la colonne vertébrale de l'approvisionnement d'un véhicule électrique. OK? C'est ce qu'on utilise tout le temps. Parce que la recharge rapide peut, dépendamment de la grosseur de la batterie, occasionner un stress sur la batterie. Alors, en théorie, on veut faire ça de façon occasionnelle, la recharge rapide. Puis, la recharge lente, ça se fait pendant que l'auto est arrêtée puis elle fait rien. T'sais, une auto... C'est stationné, je pense, c'est 23 heures par jour ou 22 heures par jour. Donc, pendant qu'il est stationné, ça se recharge, c'est facile.
Puis... Ça fait en masse d'heures pour se recharger, ça, quand même, 23 heures par jour. Là.
Oui, puis tantôt, on a dit que ça en prenait deux pour remplir...
Pour ce que tu roules dans une journée,
oui, mettons. Oui, exact. Donc, ça va, c'est là pour rester. Puis parfois, on entend justement les gens qui disent « Ah, c'est désuet, les bornes standards. » Non, non, pas du tout. C'est là pour rester. C'est comme la prise 120 volts que vous avez partout.
On puis... les aime. C'est nos prises lentes à la maison. Ça.
Absolument. Voilà. Puis, tu sais, ça nous tente pas d'avoir une prise 240 pour la télé. Pas là, c'est correct. C'est pas...
Au niveau du coût, puis il y a beaucoup d'incompréhension par rapport au coût de rouler électrique puis de ce que ça pourrait coûter dans le futur. Puis j'en ai un ici. Puis ça, c'est un commentaire qui ne provient pas de notre page à nous, mais que j'ai été chercher sur la page de... comme une page Facebook de je pense, soit le guide de l'auto ou RPM, quelque chose. Tu sais, les émissions de char.
Ouais.
Et on a ici un Bob qui disait « Inquiétez-vous pas, quand les chars électriques seront la norme, l'électricité sera le double du prix du gaz. Retenez bien ça. » qu'est-ce que tu dirais à ça?
Mais il y a clairement une boule de cristal que je n'ai pas. L'idée, en fait, quand on offre la recharge, c'est d'avoir le tarif le plus juste possible. Puis c'est clair que le tarif à une borne publique est plus cher qu'un tarif à la maison. C'est l'analogie que je fais, tu sais, c'est sûr que ça te coûte moins cher manger chez vous que manger au restaurant parce que il y a des infrastructures à financer. Mais la vision, c'est vraiment pas de faire de l'argent sur le dos des électromobilistes.
Mais si on regarde même le coût de rouler électrique, on peut pas dire que c'est le prix des bornes qui le détermine tant que ça, parce que la plupart des recharges qu'on fait souvent vont être à la maison. Oui, peut-être dans certains cas, quand on est en ville, c'est plus sur les bornes publiques, mais la plupart des électromobilistes au Québec aujourd'hui, c'est le coût de recharge, c'est plus basé sur le coût du kilowattheure à la maison.
Exact.
Mais je regardais pour le fun. Mettons qu'on teste la théorie du monsieur que... Mm-hmm. Quand les chars électriques seront la norme, que l'électricité sera le double du prix du gaz. Et j'ai fait un petit calcul. Mettons, à 8 sous du kilowattheure à peu près à la maison, et une voiture électrique, c'est à peu près 20 kilowattheure au 100 km. Fait qu'on calcule à peu près 1,60 du 100 km. Une voiture à essence qui ferait du 8 litres au 100 km, à 2$ le litre, mettons. Là, je suis quand même correct parce que c'est rendu plus cher que ça, mais on ne sait jamais, ça pourrait redescendre. Ça ferait 16$ au 100 km, donc 10 fois plus cher. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour que ça soit deux fois plus cher l'électricité que de rouler à essence, il faudrait que le tarif soit multiplié par 20. J'ai fait un autre petit calcul pour le fun. Ma facture d'électricité chez nous, c'est à peu près 200$ par mois. Si l'électricité, le tarif était multiplié par 20, ça me coûterait 4000$ d'électricité par mois. Est-ce que c'est plausible, vous pensez, que Hydro augmente ses tarifs pour que ça me coûte 4000$ par mois?
On sera jamais prêt à gérer ça sur les réseaux sociaux.
Ben écoute, rendu là, ça me coûterait 48 000 par année. Je pense que rendu là, j'aurais plus de char électrique, je vais me payer une limousine avec un chauffeur.
j'ai un commentaire un peu long pour toi. Alors, je vais demander 100% de ton attention indivise. C'est quelqu'un qui mélange quelques concepts et on va démystifier ça ensemble aujourd'hui. Donc, Daniel a dit, à noter que tous les véhicules devraient permettre que les premiers... c'est en caps lock, en majuscule, kilomètres, soit en mode hashtag électrique branchable. Les kilomètres additionnels pourraient être visés par une hashtag pile à combustible de hashtag hydrogène comme prolongateur, en majuscule. Voir la vidéo. Vous envoyez beaucoup de vidéos, mais on regardera ça plus tard peut-être. Au Québec, on peut transformer les surplus d'hydroélectricité de 42 TWh en hydrogène. Donc, on laisse couler les surplus d'eau de nos barrages en pleine période de l'année pour plus de 10 TWh, sans oublier la stabilisation d'électricité envoyée en mise à la terre de 1 TWh. Alors, tous ces chiffres ne sont pas validés, c'est vraiment juste un commentaire d'une personne. Au Québec, nous avons plein d'occasions de récupérer ces énergies non productives. C'est presque terminé. Les études démontrent que 80 % des déplacements journaliers sont pour moins de 60 km. Donc, pour deux ou trois voyages de vacances par année, pourquoi se promener 97 % du temps avec le poids inutile, majuscule, d'une grosse batterie? Une pile à combustible pèse environ un dixième du poids pour 500 à 600 km d'économie avec 5 kg d'hydrogène. Monsieur, c'est encore en France. C'est un prolongateur qui permet d'être plus efficace par rapport au poids. Lâche pas. Même des batteries modulables en location permettraient aussi plus d'efficacité. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a une confusion, je pense, par rapport à l'hydrogène et les batteries. Donc, l'hydrogène, là, on va pas aller verser ça dans nos voitures électriques demain matin. Ça ne sert pas à ça. T'as peut-être retenu d'autres choses que moi de ce commentaire-là, mais ouais. Je pense que c'était la question principale.
Bien, ça existe, des voitures à hydrogène avec des piles à combustible. Puis il faut comprendre qu'une voiture avec une pile à combustible, ça alimente un moteur électrique. Donc, c'est une voiture électrique. OK? Par contre, dans des juridictions comme ici, au Québec, où l'électricité est propre, il n'y a pas d'avantage pour la raison que ça prend environ, c'est un ordre de grandeur, là, environ 10 unités d'électricité pour faire une unité d'hydrogène. OK? Fait que d'un point de vue d'efficacité énergétique...
On n'est pas là.
C'est vraiment pas, j'en fais.
On n'est vraiment pas là. Ouais,
c'est comme pas optimal, disons.
C'est comme pédaler en envers sur un vélo.
Ouais, c'est...
Okay. Même si c'est fait avec de l'électricité propre, puis le monsieur parle de surplus.
Oui.
Mais bon, on sait que c'est pas vraiment le cas, là. Puis dans le contexte de décarbonation, il y en a pas de surplus.
Non, c'est ça, on n'est pas là. On n'est pas là à gaspiller des unités d'électricité pour faire de l'hydrogène pour ça. Puis la personne parlait du poids inutile d'une grosse batterie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des batteries de voitures électriques? C'est quoi la différence? C'est quoi l'impact réel?
Mais c'est sûr qu'une batterie, c'est lourd.
Ouais.
Mais actuellement, il y a une course dans la R&D pour justement diminuer le ratio énergie-volume.
Mm-hmm.
Donc, actuellement, la recherche se fait pour mettre de plus en plus, justement, d'énergie dans de moins en moins de poids. Fait que c'est ça, the name of the game actuellement, c'est exactement ça. Et c'est ce que nos collègues à l'IREC font.
Exactement. À l'IREC, il y a des recherches en ce moment pour avoir la batterie la plus sécuritaire, la plus fiable. Puis ceux qui l'ont jamais vu, les batteries, c'est comme... Ils développent quelque chose, c'est comme des petits sachets, là. C'est super intéressant. C'est fascinant, l'évolution qui a été faite entre le début de ces recherches-là versus les batteries actuelles qui sont en train d'être développées. Les batteries, par contre, ça reste vraiment au cœur de la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est polluant, tout ça. » Je vais te lire un autre commentaire, un peu plus court, celui-là.
J'espère.
C'est Irène Doucet qui nous dit « Les batteries sont super polluantes. » C'est tout.
Elle n'a pas tort. Mais on en est conscient, bien entendu. Et il y a une industrie qui est en train de se mettre en place actuellement, justement, pour recycler les batteries. Donc, il y a des technologies actuellement qui existent où est-ce qu'on croche, comment on dit ça, qu'on
écrapoutille.
On compresse les batteries, puis on est capable d'aller recycler jusqu'à 90 et plus là, % de la batterie à récupérer les métaux et à les remettre en circulation, donc pour faire une économie circulaire. C'est pas encore en place, c'est vrai, c'est naissant, mais c'est quelque chose qui, à terme, va occuper beaucoup d'espace dans toute l'industrie des véhicules électriques.
Mais même sans le recyclage des batteries, là, il y en a qui disent « Ouais, mais là, les batteries de voitures électriques, c'est aussi polluant, sinon plus que le gaz. » Est-ce qu'aujourd'hui, si je roule en véhicule électrique, je suis plus polluant qu'une auto à essence?
Là, il faut penser en termes de cycle de vie complet du produit. Donc, quand on prend une voiture électrique puis une voiture à essence dans la salle de montre, la voiture électrique a une plus grande empreinte écologique. Cependant, si on ajoute au cycle de vie la durée de vie de la voiture et le carburant, ben la voiture électrique est clairement gagnante au terme du cycle de vie.
C'est quand on voit toutes les externalités là, de la production, la conduite jusqu'à la fin de vie de cette voiture-là, que là, la voiture électrique, on constate qu'elle est meilleure au niveau de l'environnement.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le véhicule électrique, c'est pas la solution à tous les maux, là.
Hein?
Non, mais c'était tout pour aujourd'hui, mais tout le monde.
Non, mais de plus en plus, on est en train de regarder le portefeuille global d'offres qui va être nécessaire pour répondre justement au changement climatique. Oui, il faut électrifier les transports parce qu'on ne se débarrassera pas demain des véhicules électriques, des véhicules individuels. Donc, tous les véhicules individuels, s'ils peuvent être électriques, tant mieux. Mais il y a beaucoup de partage de véhicules qui est possible aussi. Tu sais, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est stationné pendant 23 heures. C'est pas optimal. Puis on peut pas imaginer que avoir un véhicule par individu avec la croissance de la population, avec la croissance du parc, que c'est la solution. Ça se peut pas. Il faut qu'on regarde plus large que ça. Donc, électrifier, mais également partager.
Justement, France, la journée où toutes les voitures du Québec seront électriques, est-ce qu'on sera capable de les alimenter?
C'est pas vraiment un enjeu, mais tu sais, d'avoir plein de véhicules coincés dans un bouchon de circulation, même s'ils produisent pas d'émissions, c'est peut-être pas ça non plus qu'on vise.
Mm-hmm. Mais je pense aussi qu'il y a un enjeu de... Tu sais, là, on s'imagine passer du tout au tout. Là, on s'imagine que dans pas long, il va y avoir juste des véhicules électriques. On va être prêt avec ça, on sera pas prêt. Mais en fait, tu sais, tantôt, tu nous disais, ça fait 10 ans le circuit électrique, on a commencé avec 32 bornes, on a évolué.
C'est graduel.
Si il y a 10 ans, t'avais dit, ça va nous prendre 32 000 bornes, tu sais, t'aurais paniqué, là. T'aurais dit, c'est pas possible, on se rendra pas là. Mais c'est ça, c'est très, très progressif. Les véhicules électriques vont arriver de façon progressive, les gens vont être plus habitués. La panique est pas pognée.
Tellement pas. Tellement pas. Puis en plus, tu sais, avec le prix de l'essence actuellement, tout le monde veut une voiture électrique, puis tout le monde est sur une liste d'attente parce que il y a des pénuries un petit peu partout dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, tu sais, ça arrive vraiment de façon très, très graduelle. Là, on va ajouter un service pour les orphelins de recharge. Tantôt, on va ajouter un... Oui, pour toi, juste pour toi, Gabriel.
Je ne serai plus orpheline.
Je ne serai plus orpheline. Je vais peut-être encore poquer des clôtures, mais je ne serai plus orpheline.
C'est un grand groupe d'usagers. Est-ce qu'on peut les appeler les orphelins lamprons?
Oh!
Ah, c'est toi qui faut, comme, tu vas être comme la maman de tous les orphelins de garage, dans un sens?
Hein? Ouais, non, peut-être pas. Je vous les laisse avec à gérer leurs commentaires. C'est bon.
Pierre-Alexandre, tu es originaire de la Mauricie. Je pense que les gens des régions se posent des questions sur les voitures électriques, entre autres.
Effectivement, on parle beaucoup des orphelins de Lampron et puis des bornes en région urbaine, mais comme d'habitude, on oublie les gens dans les régions. Hein? Ils ne se gêneraient pas pour nous le faire remarquer s'ils étaient ici. On a un Stéphane qui nous dit « Pour ma part, moi, c'est encore non, vraiment longtemps. Une auto électrique, je demeure sur la Côte-Nord. Alors, imaginez-vous, juste pour me rendre à Québec ou Montréal, faudrait que j'arrête quelques fois trop longtemps pour faire ça en une journée. » Et les gens ont l'air à penser que les bornes sont trop espacées pour que ça soit, pour que ça vaille la peine d'avoir une voiture électrique en région.
Intéressant. En passant, Lampron, ça vient de la Mauricie.
Oh!
Voilà. Notre réseau du circuit électrique fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de bornes, comme entre Baie-Comeau puis Québec, là. Il faudrait vraiment regarder le réseau pour voir qu'il y a beaucoup de redondance. Donc, les gens n'ont pas besoin de s'arrêter à toutes ces bornes-là. Puis tout à l'heure, on disait une autonomie de véhicule, maintenant, c'est 400, 500 kilomètres. Donc, là, il faudrait que je calcule combien y a-t-il de kilomètres entre Baie-Comeau et Québec. Je suis pas certaine, mais il y a probablement pas tant d'arrêts à faire que ça. Puis ensuite, quand on arrive à destination, puis que là, on se stationne pour plusieurs heures, bien, on se charge sur une borne de niveau 2. Donc, c'est normal. Les gens connaissent pas ça, puis sont inquiets, mais c'est tellement pas compliqué. Puis on a aussi un outil qui s'appelle le planificateur de trajet. Ce qui fait qu'on a juste à rentrer la destination, puis l'application va nous dire quand arrêter, combien de temps. Puis on peut également dire, bien, moi, quand je vais arriver à destination, là, je vais avoir tant d'autonomie qui me reste. Et là, ça va tout calculer pour vous.
Donc, la morale de cette histoire, on aura de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus de bornes, et on aura la capacité de servir et d'alimenter tout le monde. France Lampron, directrice mobilité. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, restez des nôtres parce qu'on aura plusieurs autres épisodes sur tout plein de sujets qui soulèvent beaucoup de questions et on a évidemment toutes les réponses.